Chapitre 10. Confrontation.
Kyle, c'est intolérable!
L'exclamation de Ronica résonna clairement dans le couloir d'allée, et sa stridence donna envie à Althea, qui souffrait de migraines, de s'en détourner, alors même que la mention du nom de Kyle la poussait à foncer dans la bataille.
Prudence, se conseilla-t-elle. Tout d'abord, elle devait découvrir par quel genre de temps elle naviguait, et elle ralentit en suivant le couloir qui menait à la salle à manger.
« C'est mon fils et je le disciplinerai comme bon me semblera. Ma conduite vous paraît peut-être dure aujourd'hui, mais plus vite il apprendra à obéir, et à obéir promptement, moins il aura de mal à s'adapter à la vie à bord. Il va se remettre, et vous verrez qu'il n'a pas grand mal. Il sera sans doute plus secoué qu'autre chose. »
Même Althea perçut une vague note d'inquiétude dans la voix de Kyle. Quant au son étouffé qu'elle entendait, ce devait être sa sœur en train de pleurer. Qu'avait fait Kyle au petit Seldon? Une terrible angoisse monta en elle, mêlée au désir de fuir cette vie domestique sans dessus-dessous et de retourner... où? Au navire? Ce n'était plus un refuge. Elle se figea sur place en attendant que passe la vague de détresse qui lui faisait tourner la tête.
Vous ne vous conduisez pas comme un père qui apprend la discipline à son fils, mais comme un matelot dans une bagarre d'ivrogne. Et ce genre de comportement n'a pas sa place chez moi. Hier soir, j'étais prête à me montrer indulgente envers vous. La journée avait été éprouvante et l'aspect d'Althea était choquant. Mais ceci, sous mon propre toit, entre personnes du même sang, non. Yéma n'est plus un enfant, Kyle. Et même si c'en était un, le brutaliser n'aurait pas constitué la bonne réaction. Il ne faisait pas une crise de rage, il s'efforçait de vous faire part de son point de vue. On ne donne pas la fessée à un enfant qui exprime poliment une opinion, et on ne frappe pas non plus un homme pour cela. « Vous n'avez rien compris, » dit Kyle sans embâge. « Dans quelques jours, il vivra à bord d'un navire où la seule opinion qui compte est la mienne. » Il n'aura pas le temps de discuter mes ordres. Il n'aurait même pas le temps de réfléchir. Sur un navire, un matelot obéit instantanément. Yéma vient d'apprendre pour la première fois ce qu'il attend, s'il ne suit pas cette règle.
D'un ton radouci, il ajouta. Un jour, ça lui sauvera peut-être la vie. Althea entendait le bruit de ses bottes alors qu'il arpentait la salle.
Allons, relève-toi, Kefria. Il va revenir à lui dans quelques minutes, et je ne veux pas te voir aux petits soins pour lui à ce moment-là. Ne l'encourage pas dans un comportement que je ne tolère pas. S'il nous croit divisés sur ce sujet, il se battra d'autant plus, et plus il se battra, plus il s'étalera sur le sol.
« Tout cela me fait horreur, » dit Kefria d'une petite voix sans timbre. « Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi ?»«
Ce n'est pas obligatoire. » intervint sa mère, « et ça ne le sera pas. Je vous le déclare formellement, Kyle Havre, je ne tolérerai pas votre conduite. Dans notre famille, nul n'a jamais traité personne de la sorte. Et nous n'allons pas commencer le jour de la mort d'Ephron, pas chez moi. »
Le ton de Ronica Vestrit ne laissait pas place à la discussion. Mais ce n'était pas le ton à employer avec Kyle. Althea aurait pu en prévenir sa mère. Se dresser face à lui ne ferait qu'exaspérer sa violence, et c'est ce qui se produisit.
« Parfait. Dès qu'il reprendra connaissance, je l'emmènerai au navire, où j'aurai tout loisir de lui enseigner les bonnes manières. C'est d'ailleurs la meilleure solution, sans doute. S'il apprend un peu comment fonctionne un bateau au port, il aura moins de mal quand nous serons en marche. Et je ne serai pas forcé d'écouter des femmes qui discutent le moindre de mes ordres. Il est chez moi. » Et il sera sur mon navire, fit Ronica.
Mais Kyle la coupa et ses paroles emplirent Althea d'une colère à la fois brûlante et glacée.
Il sera sur le navire de Kefria et sur le mien, puisque je suis son époux. Ce qui se passe sur la Vivacia ne vous regarde plus, Ronica. En outre, je crois, selon les lois de succession de Terrilville, que cette maison appartient aussi à ma femme, et que nous pouvons la diriger comme bon nous semble. »
Un silence terrible se fit. Quand Kyle reprit la parole, il y avait une trace d'excuse dans sa voix.
Mais il pourrait en être ainsi, en tout cas. Mais à notre détriment à tous. Je ne propose pas que nos chemins se séparent, Ronica.
Il est évident que la famille prospérera davantage si nous œuvrons de concert, dans une maison commune et vers un but commun. Mais je n'y parviendrai pas les mains liées. Vous devez vous en rendre compte.
Vous vous en êtes très bien tiré pour une femme toutes ces années. Mais elle est en change. Et Ephron n'aurait pas dû vous laisser vous débrouiller toute seule. J'avais beau respecter l'homme, ou peut-être parce que je le respectais, je dois apprendre de ses erreurs. Il n'est pas question que je fasse voile dans le soleil couchant en laissant Kefria tout gérer en attendant mon retour. Je dois m'assurer de pouvoir demeurer à terre et diriger nos affaires. Et je n'ai pas l'intention de laisser Yema monter à bord de la Vivacia et s'y conduire comme un prince gâté. Vous avez vu ce qu'est devenu Althea? C'est une tête de mule qui s'intéresse si peu au sort des autres qu'elle en est inutile. Non, pis, qu'elle est sur le point de ruiner le nom et la réputation de la famille. Je vous le dis carrément. J'ignore si vous êtes capable, l'une ou l'autre, de lui fixer les limites dont elle a besoin.
Peut-être le plus simple serait-il de la marier, de préférence à quelqu'un qui n'habite pas Terrilville. Alors, toute voile dehors, Althea pénétra dans la salle.
Auriez-vous le front de répéter vos insultes devant moi, Kyle?
L'homme ne parut pas étonné de son apparition.
Il me semblait bien avoir vu votre ombre. Depuis combien de temps écoutez-vous notre conversation, petite sœur?
Depuis assez longtemps pour savoir que vous ne voulez le bien ni de notre famille, ni de notre navire.
Althea s'efforçait de ne pas se laisser ébranler par le calme de Kyle.
Qui vous croyez-vous donc pour parler sur ce ton à ma mère, à ma sœur, pour leur annoncer tranquillement vos intentions, votre volonté de revenir diriger les affaires?
Je suis l'homme de la famille à présent, il me semble,
déclara-t-il sans prendre de gants. Althea eut un sourire glacial.
Vous pouvez jouer à l'homme de la famille tant qu'il vous plaira. Mais si vous croyez que vous allez garder mon bateau, vous vous trompez.
Kyle poussa un soupir théâtral. Et moi qui m'imaginais que seuls vos prétendus cousins du désert des pluies croyaient que répéter un souhait assez souvent suffisait à le réaliser,
fit-il ironique.
Petite sœur, vous êtes une sotte. Non seulement la loi commune de Terrilville reconnaît Kefria comme unique héritière, mais le fait a été consigné par écrit et ratifié par votre père lui-même. Comptez-vous contrecarrer sa volonté même en cela?
Ces mots anéantirent Althea. Elle eut l'impression que tout ce qu'il avait soutenu jusque-là venait de lui être arraché. Elle était presque arrivée à se convaincre que la scène de la veille avait été un accident, que son père ne pouvait pas consciemment vouloir la déshériter du navire. Il n'avait agi ainsi que parce qu'il souffrait trop. Mais apprendre qu'il l'avait couché par écrit et scellé, non.
Elle regarda sa mère, puis reporta les yeux sur Kyle.
Peu importe ce qu'on a induit mon père à rédiger sur son lit de mort, dit-elle d'une voix basse mais furieuse. Je sais que Vivacia est à moi comme elle ne sera jamais à vous, Kyle. Et je vous le dis, je n'aurai de cesse de la voir sous mon commandement.
Votre commandement ?
Kyle éclata d'un rire qui évoquait un aboiement.
Vous, commandez un navire ? Vous n'êtes même pas bonne à servir à bord d'un rafio. Vous vous faites des illusions sur vos compétences. Vous vous prenez pour un marin, mais c'est faux. Votre père vous emmenait avec lui pour vous éviter d'avoir des ennuis à terre. Voilà ce que je comprends. Vous n'êtes même pas bon marin.
Althea s'apprêtait à répondre quand Yema, étendue par terre, poussa un gémissement qui attira tous les regards sur lui.
Kefria s'élança, mais Kyle l'arrêta d'un geste.
Ronica, en revanche, ne prêtant nulle attention aux regards et aux bras tendus de son gendre, s'approcha du garçon. Il se redressa sur son séant, manifestement sonné, en se tenant la tête à deux mains. Avec effort, il regarda sa grand-mère en essayant d'accommoder sa vision.
Je vais bien ?
Demanda-t-il d'un ton incertain.
J'espère,
répondit-elle gravement. Elle poussa un petit soupir.
Althea,
veux-tu m'apporter un linge mouillé ?
Ce gosse porte à merveille,
grogna Kyle. Mais Althea ne l'écouta pas. Elle sortit de la salle en coup de vent pour chercher un torchon humide, tout en se demandant pourquoi elle obéissait ainsi. Elle soupçonnait sa mère d'avoir trompé son père, d'avoir obtenu de lui une signature qu'il refusait. Pourquoi donc se pliait-elle si docilement à sa volonté aujourd'hui ? Elle n'en savait rien, sinon peut-être que cela lui permettait de s'éloigner un moment de Kyle et d'éviter de le tuer. Tandis qu'elle descendait à la pompe, elle se demanda ce qu'il était advenu de son monde. Jamais on n'avait vu de telles scènes chez elle. Entendre des gens s'insulter à tue-tête était déjà étonnant, mais Kyle avait carrément assommé son fils. Elle n'arrivait pas à le croire. De tels comportements étaient trop étrangers pour elle, si choquants qu'elle ignorait comment y réagir et que ressentir. Elle actionna la pompe, passa une serviette sous l'eau glacée, puis l'essora consciencieusement. Une domestique se tenait dans la pièce, l'air inquiet.
« Voulez-vous que je vous aide ? »
demanda-t-elle dans un quasi-murmure. Althea s'entendit mentir calmement.
« Non, non, tout va bien. Le capitaine Havre s'est simplement mis en colère. »«
Tout va bien, » songea-t-elle. Ce n'était vraiment pas le sentiment qu'elle éprouvait. Elle avait plutôt la sensation d'être une massue de jongleurs en train de virevolter en l'air sans savoir quelle main allait la rattraper et la relancer en cadence. Mais peut-être n'y aurait-il pas de main ? Elle allait peut-être s'envoler, hors de toute maîtrise, et ne plus jamais faire partie de la famille. Cette image ridicule la fit sourire amèrement, et elle déposa le linge humide dans une jatte en terre avant de la porter dans la salle à manger. Quand elle arriva, Yémin et sa grand-mère étaient assis à un angle de la table basse. Le jeune garçon paraissait pâle et bouleversé. Ronika déterminée. Elle tenait les mains de son petit-fils entre les siennes et lui parlait d'un ton grave. Kyle se tenait les bras croisés près de la fenêtre. Il tournait le dos à la salle, mais Althea sentit l'indignation qui émanait de lui. Kefria, debout à côté de lui, le regardait d'un air suppliant. Mais il ne semblait pas avoir conscience de sa présence.
Tout est entre les mains de ça.
Ronika s'adressait d'un ton solennel au neveu d'Althea. Je crois que ce n'est pas sans raison qu'il t'a renvoyé chez nous et créé ce lien entre le navire et toi. Il doit en être ainsi, Yémin. Peux-tu l'accepter, comme tu as autrefois accepté la façon dont nous t'avons voué à la prêtrise ? Un lien entre Yémin et le navire ? C'était impossible. Le cœur d'Althea se glaça dans sa poitrine, mais curieusement, son corps continua d'avancer et ses yeux de voir. Yémin portait toute son attention sur sa grand-mère. Il ne la quittait pas du regard. Son ascendance Havre était manifeste dans son menton relevé et la colère qui brûlait dans ses yeux. Puis, comme elle déposait la jatte au linge humide près de lui, Althea vit le jeune garçon reprendre sa maîtrise de soi. En 5 ou 6 respirations, il détendit ses traits et l'espace d'un instant, Althea remarqua chez lui une forte ressemblance, non seulement avec le capitaine Vestrit, mais aussi avec l'image que lui renvoyait son propre miroir. Elle en resta pantoise. Quand il prit la parole, ce fut d'un ton mesuré et raisonnable. « J'ai entendu ce discours 1000 fois. » C'est la volonté de ça. Qu'il s'agisse du mauvais temps, de tempêtes tardives, d'enfants mort-nés, c'est la volonté de ça. Il saisit le linge humide, le plia soigneusement et l'appliqua sur sa joue qui commençait déjà à virer au violacé. Le jeune garçon paraissait encore secoué et son esprit un peu confus. Ses mots manquaient de tranchant et Althea supposa qu'il avait du mal à s'exprimer. Mais il ne paraissait pas fâché, ni intimidé, ni effrayé. On eût dit seulement qu'il cherchait à atteindre sa grand-mère par ses paroles, comme si, en la gagnant à sa cause, il pouvait sauver sa propre existence.
c'était possible.
Les tempêtes et le mauvais temps sont peut-être effectivement de son fait. Les enfants mort-nés aussi. Sauf quand le mari a battu sa femme la veille. Sa voix s'éteignit comme s'il se remémorait quelques souvenirs désagréables, puis ses yeux se reportèrent sur le visage de sa grand-mère. « Je crois que ça nous a donné notre existence, et que sa volonté est que nous la vivions bien. Il place des obstacles sur notre chemin, c'est vrai. J'ai entendu des gens enragés contre sa cruauté et demander « Pourquoi ? Pourquoi ?» Mais le lendemain, ces mêmes personnes prennent leur scie et s'en vont couper des branches de leurs arbres fruitiers, déraciner de jeunes baliveaux et les replanter loin de là où ils avaient poussé. Ils croîtront mieux et ils donneront davantage, affirment les ouvriers des vergers. Mais ils ne restent pas auprès des arbres pour leur expliquer que c'est pour leur bien. Il retira le linge de sa joue et le plia différemment pour lui redonner de la fraîcheur.
« Mon esprit divague, » fit-il d'un air mécontent. Au moment où je voudrais m'adresser le plus clairement à vous, grand-mère. Je ne pense pas que ce soit la volonté de ça que je quitte le séminaire et que je vive à bord d'un navire afin que notre famille prospère financièrement. Je ne suis pas non plus certain que ce soit votre volonté à vous. C'est celle de mon père. Pour obtenir ce qu'il veut, il se propose de violer une promesse et de violer mon cœur. De plus, je me rends bien compte que ce cadeau qu'il me fait et dont je ne veux pas, a été arraché hier seulement à ma tante Althea. »
Pour la première fois, il regarda l'intéressé. Malgré la douleur qu'elle eut sur son visage meurtri, elle eut l'impression un instant de se trouver devant les yeux de son père, devant cette patience infinie qui capitonnait une volonté de fer. Elle se disait, stupéfaite, que ce n'était pas un jeune garçon fragile, un novice timide qu'elle avait devant elle, mais un homme enfermé dans le corps d'un adolescent en pleine modification.
« Votre propre fils constate l'injustice de votre conduite, » dit-elle à Kyle d'un ton accusateur. « Me dépouiller de Vivacia n'a rien à voir avec votre conviction que je suis ou non capable de la commander. C'est votre cupidité qui vous fait agir. »«
Ma cupidité !»
cria Kyle avec dédain.
« Ma cupidité ! Ah, elle est bien bonne !» C'est par cupidité que je voudrais récupérer un navire tellement grevé de dettes que j'aurai de la chance si je les rembourse avant ma mort. C'est la cupidité qui me pousse à prendre la responsabilité d'une famille incapable de gérer correctement son argent. Althea, si je pensais que vous aviez la moindre chance de vous rendre utile à bord de la Vivacia, je sauterais sur l'occasion de vous y faire travailler, pour changer. Non, mieux que ça. Si vous étiez capable de me montrer le moindre signe de compétence en tant que marin, si vous aviez ne serait-ce qu'une étiquette de recommandation à votre ceinture, je vous ferais présent de ce fichu bateau et de toutes ses dettes. Mais vous n'êtes rien d'autre qu'une gamine gâtée.
Menteur ! S'exclama Althea avec dégoût.
Par ça, je ne dis que la vérité ! Rugit Kyle hors de lui. « Si un seul capitaine, digne de ce nom, acceptait de témoigner de votre aptitude de marin, je vous remettrai le navire dès demain. Mais tout Erilville sait ce que vous êtes, une dilettante qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. »
« Le navire serait prêt à témoigner en sa faveur, » intervint Yéma d'une voix hésitante. Il porta une main à son front comme pour empêcher sa tête d'éclater. S'il se portait témoin pour elle, tiendriez-vous parole? Car, par ça, vous avez fait un serment, et nous l'avons tous entendu. Vous seriez obligé de le tenir. Je ne puis croire que mon grand-père voulait toutes ces disputes et cette violence, alors qu'il était très simple de rétablir un équilibre. Si Althea montait à bord de la Vivacia, je rentrerais avec bonheur dans mon monastère, et chacun de nous retrouverait sa place, là où nous étions heureux. »
Sa voix mourut quand il s'aperçut que tous les regards étaient fixés sur lui. Les yeux de son père étaient noirs de fureur, et Ronica Vestrit avait porté la main à sa bouche comme si le discours de Yéma l'avait touché au vif.
« J'en ai assez de toutes ces pleurnicheries.
explosa soudain Kyle. En quelques enjambées, il s'approcha de la table, y prit appui et foudroya son fils du regard.
« Est-ce ça que tu as appris chez les prêtres ? À tout déformer pour obtenir ce que tu désires ? J'ai honte de voir un garçon de mon propre sang employer de telles pratiques sur sa grand-mère. Lève-toi »
aboya-t-il. Comme Yéma ne bougeait pas et continuait de le dévisager sans un mot, il hurla
« Debout !»
Le jeune novice hésita un instant, puis se redressa. Il ouvrit la bouche, mais son père le prit de vitesse.
« Tu as 13 ans, même si tu en parais 10 et que tu te conduis comme si tu en avais 3. 13 ans !» Selon la loi de Terrilville, le travail d'un fils revient à son père jusqu'à ses 15 ans. Si tu t'opposes à moi, j'invoquerai cette loi. Je me fiche que tu portes une robe marron ou qu'il te pousse des andouillés sacrés sur le front. Jusqu'à 15 ans, tu travailleras sur ce navire. Est-ce clair ?
Même Althea fut choquée par le quasi-blasphème que constituaient les paroles de Kyle.
Yéma avait la voix tremblante, mais ce fut droit comme un « i » qu'il répondit. « En tant que prêtre de ça, je ne suis tenu par les lois civiles que si elles sont justes et respectent la vertu. Vous invoquez une règle civile pour enfreindre votre promesse. Quand vous m'avez donné à ça, vous avez aussi donné mon travail à ça. Je ne vous appartiens plus. »
Il jeta un coup d'œil à sa mère, puis à sa grand-mère, et ajouta presque d'un ton d'excuse.
« Je ne fais même plus vraiment partie de la famille. J'ai été donné à ça. »
Ronica voulut s'interposer, mais Kyle l'écarta avec une force qui fit trébucher la vieille femme. Un cri aux lèvres, Kefria se précipita vers sa mère. Pendant ce temps, Kyle agrippa Yéma par le devant de sa bure et le secoua à lui en faire balloter la tête. Sous l'effet de la fureur, sa voix était méconnaissable.
« À moi !» rugit-il. « Tu es à moi. Tu vas te taire et faire ce qu'on t'ordonne, tout de suite !»
Il cessa de secouer le garçon et le hissa sur la pointe des pieds.
« Descends au navire et présente-toi au second. Dis-lui que tu es le nouveau mousse et n'ajoute rien de plus. Le mousse, compris ?»
Althea avait assisté à la scène avec une fascination horrifiée. Elle avait vaguement conscience que sa mère serrait contre elle une Kefria sanglotante, à demi hystérique, et tentait de la consoler. Deux serviteurs, incapables de contenir leur curiosité, observaient discrètement la salle par la porte ouverte. Althea devait intervenir, elle le savait. Mais les événements dont elle était témoin étaient si loin de son expérience qu'elle ne pouvait rester que bouche bée. Dans les cuisines, on murmurait qu'il se produisait des scènes semblables dans certaines maisons, ou bien on avait entendu parler de marchands qui mettaient leurs fils en apprentissage contre leur volonté. Althea elle-même savait que, selon la rumeur, une discipline de fer régnait sur certains bateaux. Mais cela ne concernait absolument pas les premiers marchands et leurs familles, ou sinon on n'en parlait pas.
« Est-ce que c'est clair ?»
hurla Kyle comme si crier devait rendre ses propos plus compréhensibles. Étourdi, Yéma réussit à acquiescer, et Kyle lâcha sa robe. Le garçon chancela, puis se rattrapa à l'angle de la table. Il resta appuyé là, la tête penchée.
« Et quand je dis tout de suite, c'est tout de suite !»
aboya Kyle d'un ton où se mêlaient la fureur et le triomphe. Il tourna la tête vers la porte où se tenait un domestique.
« Toi, Velf, cesse de bâiller aux corneilles et accompagne mon fils jusqu'à la vivacia. Veille à ce qu'il emporte toutes les affaires avec lesquelles il est venu, parce qu'à partir de maintenant, il va vivre sur le navire. »
Tandis que Velf entrait précipitamment pour prendre Yéma par le bras et le conduire hors de la salle, Kyle se tourna vers Althea d'un air menaçant. Avoir réussi à se faire obéir de son fils paraissait avoir accru son assurance, car il déclara d'un ton de défi.
« Êtes-vous assez avisé pour tirer une leçon de cette scène, petite sœur ?»
D'une voix basse et monocorde, Althea répondit.
Ça m'étonnerait beaucoup que nous n'ayons pas tous appris quelque chose sur vous, Kyle. Surtout que vous êtes pratiquement prêt à tout pour assurer votre mainmise sur la famille Vestrit.
Ma mainmise ?
Kyle la dévisagea, incrédule, puis regarda les deux autres femmes pour voir si elles partageaient sa stupéfaction. Véronica lui rendit un regard noir pendant que Kefria sanglotait sur son épaule.
Vous croyez que c'est mon but ? Prendre la direction absolue de la famille ?
Il secoua la tête, puis éclata d'un rire incertain.
« Mon but, c'est de sauver ce qui peut encore l'être. Sacré nom, je ne sais pas pourquoi je me donne tant de mal. Vous me considérez toutes comme un voleur, alors que j'essaie seulement de maintenir la famille à flot. Kefria, tu le sais bien, toi, nous en avons parlé. »
Il se tourna vers sa femme qui finit par lever vers lui son visage sillonné de larmes. Mais il n'y avait aucune compréhension dans ses yeux.
Il secoua la tête d'un air perplexe. « Que dois-je faire, selon vous ? » demanda-t-il à la cantonade. « Nos propriétés perdent de l'argent tous les jours, nos créanciers menacent de les saisir, et vous paraissez tous penser, en prenant une tisane autour d'une table, que votre bonne éducation vous interdit d'y prêter attention. Non, ça, je le retire. Althea a l'air de vouloir accélérer notre ruine en conservant la vive nef comme jouet. » Pendant qu'elle passe ses soirées à s'enivrer avec les voyous du coin, à se bagarrer et à se faire tripoter.
Arrêtez, Kyle,
l'avertit Véronica à voix basse.
Arrêtez quoi ? De vous dire ce que vous savez déjà, mais que vous refusez de reconnaître ? Écoutez-moi tous un instant.
Il se tut et prit une longue inspiration, comme s'il s'efforçait d'écarter sa colère et sa frustration.
Je dois penser à mes enfants. Celle de Némalta. Comme Ephron, moi aussi je mourrai un jour, et je n'ai pas l'intention de ne leur laisser que des dettes et une mauvaise réputation. Ephron ne vous a pas donné de garçon pour vous protéger, Véronica, d'homme pour prendre en charge la gérance des propriétés. Je me présente donc comme un beau-fils digne de ce nom pour accomplir ce qui doit l'être, si pénible cela soit-il. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. Et je pense pouvoir nous remettre sur pied. J'ai noué un certain nombre de contacts avec des Chalcédiens qui sont prêts à traiter avec nous. C'est un projet qui n'a rien d'inhabituel. Nous devons employer le bateau et l'employer au maximum pour transporter les frettes les plus profitables le plus vite possible. Entre-temps, il faut évaluer toutes nos propriétés, sans faire de sentiments, et ne garder que celles qui peuvent nous rapporter du bénéfice cette année. Mais plus important, il ne faut pas affoler nos créanciers. Si nous vendons à tout vent, ils vont croire que nous coulons, et ils se jetteront sur nous pour tirer une fraction de ce qui reste avant que tout soit parti. Et franchement, s'ils voient Althea boire et bambocher sans cesse avec des hommes de mauvaise vie, comme si la famille avait perdu tout espoir et tout sens de la dignité, cela aurait son effet. Salissez votre nom, Althea, et vous salissez celui de ma fille en même temps. Un jour, j'espère que vous verrez Malta faire un bon mariage. Mais les hommes honorables se détourneront d'elle si vous passez pour une ivrognesse et une souillon.
Althea gronda.
Comment osez-vous ? J'ose beaucoup pour mes enfants. Yémin deviendra un homme, qu'il le veuille ou non, même si plus tard il croit me détester. Je rendrai une base financière solide à cette famille, même si je dois employer la vive nef comme vous n'auriez jamais pu vous y résoudre. Si vous vous souciez autant que moi des vôtres, ne fût-ce qu'à moitié, vous vous reprendriez, vous vous présenteriez comme une dame et vous chercheriez un mariage acceptable pour redresser la fortune de la famille. Une rage froide monta en Althea. Je dois donc faire la pute auprès du plus offrant ? Du moment qu'il m'appelle son épouse et propose un bon prix de mariage ? Ça vaudrait mieux qu'au moins offrant, comme vous sembliez vouloir le faire hier soir, répliqua Kyle d'un ton glacé. Althea prit son souffle et se hérissa comme un chat en colère, mais sa mère intervint dans sa querelle avec Kyle.
Assez !
Ce seul mot prononcé calmement suffit. Comme si elle déposait une pile de linge sur un lit,
La vieille femme conduisit Kefria à un fauteuil proche et l'y fit asseoir. Le ton péremptoire de son intervention avait fait taire toute l'assemblée. Même les sanglots de Kefria cessèrent. Sa mère, de taille réduite, le teint sombre, paraissait encore plus petite dans ses habits noirs de deuil. Mais quand elle s'interposa entre Althea et Kyle, ils reculèrent tous les deux.
« Je n'ai pas l'intention de crier, » leur dit-elle. « Et je n'ai pas l'intention non plus de me répéter. Je vous conseille donc de faire attention et de graver mes paroles dans votre mémoire. Althea, c'est à toi que je m'adresse en premier, parce que je n'ai pas eu l'occasion de te parler vraiment depuis que tu as mis pied à terre.
Kyle, ne m'interrompez pas, même si vous êtes d'accord avec moi. Allons-y. »
Elle prit une inspiration et parut hésiter un instant. Puis elle s'approcha d'Althea et prit ses mains dans les siennes.
« Ma fille, tu as l'impression qu'on t'a causé un préjudice, je le sais. Tu pensais hériter du navire. C'était ce que voulait ton père. Mais il est mort et, même si cela me cause de la peine, je vais te parler franchement. Il t'a toujours traité comme les fils que nous avons perdus. Si tes frères avaient survécu à la peste, mais cela n'a pas été le cas. Cependant, de leur vivant, ils disaient toujours que les terres reviendraient à ses filles et le bateau à ses fils. Et bien qu'ils ne l'aient jamais déclaré franchement après la mort de nos fils, je crois qu'ils comptaient donner les propriétés à Kefria et le navire à toi. Mais ils pensaient aussi vivre vieux, voir payer les dettes sur le navire et les créances sur nos terres, et te voir épouser un homme qui commanderait la vivacia.
Non, ne dis rien,
fit-elle d'un ton âpre pour couper court à l'objection qu'Althea s'apprêtait à formuler. C'est déjà assez dur d'évoquer ces événements. Si on m'interrompt, je n'en finirai jamais, reprit-elle d'un ton radouci. Elle redressa la tête et regarda fermement sa fille.
Si tu veux reprocher à quelqu'un ta déception, prends-t'en à moi. Car lorsque je n'ai plus pu me cacher que ton père se mourait, j'ai envoyé chercher Curtil, notre vieux conseiller juridique, et à nous deux, nous avons couché sur le papier ce qui nous paraissait la meilleure solution. Puis j'ai persuadé ton père de signer le document. Je l'ai persuadé, Althea. Je ne l'ai pas trompé. Même ton père a fini par se convaincre de la sagesse de ce que nous avions décidé. Si la fortune de la famille était divisée, aucun de nous ne survivrait. Kefria étant l'aîné qui doit pourvoir aux besoins de ses enfants, j'ai suivi la tradition et j'ai fait d'elle l'unique héritière.
Ronica Vestrit quitta le regard bouleversé d'Althea pour contempler son autre fille. Kefria était toujours assis sur le banc, le front sur la table, mais ses pleurs s'étaient apaisés. Kyle s'approcha pour poser une main sur l'épaule de sa femme. Althea ne put savoir s'il cherchait à la réconforter ou s'il s'agissait d'un geste d'appropriation. Sa mère reprit. Kefria était au courant de son héritage. Elle le sait aussi. Le document établit clairement qu'elle doit continuer à pourvoir aux besoins de sa sœur jusqu'à son mariage, auquel moment elle recevra en dot une somme importante. Kefria est donc tenue, non seulement par le sang, mais aussi par écrit, de bien te traiter. Le regard effaré d'Althea n'avait pas changé.
« Althea, » fit sa mère d'un ton implorant, « essaie de considérer la situation d'un point de vue impartial.
Je me suis montré aussi juste que je le pouvais. Si on t'avait laissé Vivacia, tu aurais eu à peine de quoi la faire marcher.
Il faut de l'argent pour approvisionner un navire, engager un équipage pour l'entretien et les réparations, et un voyage profitable aurait risqué de t'obliger à faire des pieds et des mains pour payer les dettes et garder assez d'argent pour reprendre la mer. Et si tu ne faisais pas de profit, que se passerait-il?
La reconnaissance de dette du bateau est liée aux propriétés terriennes.
Il n'existait aucun moyen raisonnable de diviser l'héritage.
Il faut utiliser les deux pour nous tirer de notre situation financière.
Par conséquent, je ne reçois rien, dit Althea d'un ton calme.
Althea, ta sœur ne te laisserait jamais manquer, répondit sa mère,
mais elle en fut choquée. La jeune fille la coupa.
Je m'en fiche. Que je sois pauvre ou riche.
Je m'en fiche.
C'est vrai, j'ai rêvé que Vivacia serait un jour à moi.
Parce qu'elle est à moi, maman.
D'une façon que je ne peux te faire comprendre. De la même manière que les chevaux de Sedon Dib tirent sa voiture, mais que leur cœur, comme tout le monde le sait, appartiennent à son garçon d'écurie.
Le cœur de Vivacia est à moi.
Et le mien est à elle. Je ne veux pas de meilleur mariage. Gardez l'argent que Vivacia rapportera, que chacun affirme qu'elle appartient à Kefria, mais laissez-moi naviguer sur elle. C'est tout ce que je demande, mère. Kefria, laissez-moi naviguer avec elle, et je ne vous ferai plus d'ennuis. Je ne remettrai pas en question votre volonté pour tout le reste.
Son regard éperdu se fixa d'abord sur sa mère, puis sur le visage mouillé de larmes de Kefria, levé vers elle.
« Je vous en prie, » souffla-t-elle. « Je vous en prie. »
« Non. » C'était Kyle qui avait parlé. « Non. J'ai déjà donné l'ordre qu'on ne vous laisse plus monter à bord du navire. Et je ne changerai pas d'avis. »« Vous voyez comme elle est, » ajouta-t-il en se tournant vers Onika et Kefria. « Elle n'a pas une seule idée pratique. Elle veut n'en faire qu'à sa tête, comme auparavant. » Elle resterait la fille têtue de son père à bord de la Vivacia. Elle ne prendrait aucune responsabilité, sinon de jouer au matelot. Et une fois au port, elle ferait les boutiques, s'achèterait les breloques qui lui plaisent en les faisant mettre sur le compte de son père. Seulement, à partir d'aujourd'hui, ce compte serait celui de sa sœur et le mien. Non, Althea. Votre enfance a pris fin avec la mort de votre père. Il est temps que vous vous conduisiez comme il sied à une fille de cette famille.
« Ce n'est pas à vous que je m'adresse !»
éclata Althea.
« Vous n'avez aucune idée de ce dont je parle. Pour vous, Vivacia n'est qu'un bateau comme un autre, même s'il vous parle. Pour moi, c'est un membre de ma famille, plus proche de moi qu'une sœur. Il a besoin de moi à son bord, et j'ai besoin de naviguer avec lui. Elle affronterait la mer avec moi comme elle ne le ferait jamais avec vous, le cœur au vent !»«
Fadaise de gamine !» s'esclaffa Kyle. « Bêtise que tout ça! Vous l'avez quittée furieuse le jour où elle s'est éveillée, et vous avez laissé Yémin passer la première nuit avec elle. Si vous éprouviez tous ces grands sentiments pour la Vivacia, jamais vous n'auriez agi ainsi. Elle a l'air d'apprécier Yémin, et il sera à bord pour lui tenir compagnie ou je ne sais quoi. Et il apprendra à œuvrer comme un vrai marin, au lieu de délirer à propos du navire ou de s'enivrer dans des ports étrangers. » « Non, Althea, il n'y a pas de place pour vous à bord de la Vivacia. Et je ne veux pas que vous semiez la discorde, ni que vous souleviez une rivalité avec Yémin pour les faveurs du navire. »«
Maman !»
fit Althea désespérée. Sa mère eut l'air peinée. « Si je ne t'avais pas vue hier soir, ivre et dépenaillée, je m'opposerais à Kyle sur ce sujet. Je considérerais qu'il est beaucoup trop dur avec toi. » Elle poussa un profond soupir. « Mais je ne peux nier ce que j'ai vu de mes propres yeux. Althea, je sais que tu aimes la Vivacia. Si ton père vivait encore, mais il ne sert à rien de se poser la question. Il est temps peut-être de te détacher du navire. Je l'ai vu. Yémin a tout ce qu'il faut pour faire un homme de qualité. Il traitera bien le navire. Laisse-le faire. » Il est temps, grand temps, que tu prennes la place qui te revient à Terrilville.
Ma place est à bord de la Vivacia, répondit Althea d'une voix faible.
Non, dit Kyle.
Et sa belle-mère lui fit écho en secouant la tête.
Alors je n'ai pas de place ni dans cette famille, ni à Terrilville.
Althea s'entendit prononcer ces mots avec une sorte d'étonnement. Elle sentit leur ton définitif et elle en fut choquée. Elle avait l'impression d'avoir lâché un caillou dans une eau calme, car elle ressentit la sensation vertigineuse de ses propos qui s'éloignaient d'elle comme des ondes toujours grandissantes
et qui changeait toutes les relations autour d'elle, qui modifiait à jamais les jours à venir. L'espace d'un instant, elle resta le souffle coupé.
Althea ?
Althea !
La voix de sa mère résonna fort derrière elle. Elle marchait dans le couloir et la maison lui paraissait soudain inconnue. Il y avait des années, elle s'en rendit soudain compte, qu'elle n'y avait passé plus d'un mois à la fois. Depuis combien de temps cette tapisserie était-elle suspendue là ? Quand ces carreaux avaient-ils été fêlés ? Elle l'ignorait. Elle n'était pas là. Non, rien ne changeait vraiment puisqu'il y avait des années qu'elle ne vivait plus dans cette maison. Ce n'était plus son foyer depuis longtemps. Elle reconnaissait simplement la réalité, elle ne la créait pas. Seulement couverte des vêtements qu'elle portait, elle franchit la porte d'entrée et se lança dans le vaste monde.
« Si elle revient ivre encore une fois, je l'enferme dans sa chambre pour une semaine. Il faut qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas noircir le nom de sa famille et sa réputation à Terrilville. »
Kyle était maintenant assis près de Kefria sur le banc, un bras protecteur autour de ses épaules.
« Kyle, taisez-vous !»
Ronica s'entendit prononcer ces mots d'un ton sec mais avec calme. Tout s'effondrait autour d'elle. Sa famille, sa maison, ses rêves d'avenir. Althea ne plaisantait pas. Ronica avait reconnu le ton d'Ephron dans ses propos. Sa fille ne se représenterait pas au seuil de la maison ce soir, ivre, ou ça savait dans quel état. Elle était partie. Et tout ce que savait faire cet idiot que Kefria avait épousé était monter sur ses grands chevaux et chercher à exercer sa nouvelle autorité. Elle poussa un long soupir. C'était peut-être le seul problème qu'elle avait à résoudre pour le moment. Et en le résolvant, peut-être trouverait-elle la solution des autres. « Kyle, je n'ai rien dit devant Althea, car elle n'a pas besoin qu'on l'encourage à se rebeller. Mais vous vous êtes conduit stupidement ce matin. » Comme vous l'avez fait remarquer avec tant de tact, je ne puis faire grand-chose pour intervenir entre votre fils et vous. Mais ma fille, Althea, c'est une autre affaire. Elle n'est pas sous votre autorité, et j'ai trouvé extrêmement offensante votre volonté de la corriger. Elle s'attendait à ce qu'il prenne au moins l'air contrit. Mais son visage se durcit sous l'affront, et elle se demanda encore une fois si elle ne s'était pas complètement méprise sur le discernement de cet homme quand elle avait remis la fortune de la famille entre les mains de sa fille aînée. La déclaration qu'il fit alors confirma ses pires craintes.
« Je suis l'homme de la famille aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire qu'Althea n'est pas sous mon autorité ?»«
C'est ma fille, pas la vôtre. C'est la sœur de votre femme, pas la vôtre. » »«
Et Althea partage le même nom que vous deux, et ses actes affectent ce nom. Si Kefria et vous n'arrivez pas à lui faire entendre raison, je vais devoir la réfréner par des moyens plus fermes. Nous n'avons pas le temps de cajoler ni de choyer Yémin et Althea. Ils doivent accepter leur devoir de gré ou de force et l'exécuter convenablement.
Pour ce qui est d'Althea, ce n'est pas à vous de décider quels sont ses devoirs.
La résolution de fer qui lui avait si souvent servi à la table de marchandage lui venait en aide à présent.
C'est peut-être votre avis, mais ce n'est pas le mien. Vous m'avez confié son entretien, et à la vue de l'entretien dont elle a vraiment besoin, je suis peut-être en mesure de plier sa conduite selon des critères décents. »
Il s'exprimait d'un ton calme et rationnel, mais ses propos piquèrent Ronica au vif.
« Quand vous critiquez le comportement de ma fille, vous critiquez l'éducation que lui ont donnée ses parents. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la façon dont Ephron et moi avons élevé Althea, mais vous n'avez pas à l'exprimer.
J'ajoute que je n'ai pas confié à Kefria de réfréner Althea, mais uniquement de déterminer ce que notre budget nous permettrait de lui allouer. Il n'est pas normal qu'une sœur s'occupe de sa sœur, et encore moins que le mari d'une sœur joue les protecteurs. En outre, il n'a jamais été dans mes intentions de forcer Althea à quitter la Vivacia, mais seulement de l'encourager à se trouver une nouvelle existence, une fois qu'elle aurait vu le navire en de bonnes mains. » Ronica se laissa tomber sur le banc près de la table et secoua la tête en constatant la faillite de ses projets. Ephron avait raison à propos d'elle. Il faut lui laisser la bride sur le cou.
On ne peut la forcer à faire ce qui est le mieux pour elle. Hier soir, elle pleurait son père. Et quel que soit votre avis sur Brashen, Efron le tenait en haute estime. Peut-être ne l'a-t-il raccompagné que pour lui éviter des ennuis, comme il sied un gentilhomme devant une jeune fille en détresse.
Et peut-être avait-il passé la journée à boire du thé, tant qu'on y est,
fit Kyle avec une lourde ironie. Ce fut une grave erreur. Des yeux, Ronika fixa Kefria derrière Kyle, jusqu'à ce que sa fille s'en rende compte et croise brièvement son regard.
« Kefria, dit sa mère à mi-voix, tu connaissais mon intention en faisant rédiger ces documents. Il serait malhonnête de ta part de profiter de ta sœur, d'utiliser ton héritage pour la plier à ta volonté. Dis-moi que tu ne le permettras pas. »
« Elle a des enfants auxquels elle doit penser, » intervint Kyle.
« Kefria, répéta sa mère sans pouvoir effacer une note de supplication de sa voix. « Je... »
Les yeux de Kefria quittèrent le visage de sa mère pour le regard de granit de son époux. Elle avait le souffle court comme un animal acculé.
« Je ne peux pas prendre parti. Je ne peux pas !» cria-t-elle bouleversée et elle se tordit éperdument les mains sur sa poitrine.
« Ce n'est pas nécessaire, » l'assura Kyle. « Les papiers ont été signés devant témoin. Tu le sais. Ce que nous avons convenu est le mieux pour Althea. Nous ne voulons que son bien. Aie confiance en toi, Kefria. Aie confiance en moi, ton époux. »
Une dernière fois, Kefria croisa le regard incrédule de sa mère avant de baisser les yeux vers la surface polie de la table. Ses mains en caressèrent nerveusement le bois.
« J'ai confiance en toi, Kyle, » dit-elle dans un souffle. « Crois-moi, mais je ne veux pas faire souffrir Althea. Je ne veux pas être cruel envers elle. »
« Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, » répondit-il vivement. « Tant qu'elle-même ne nous fait pas souffrir, ce n'est que justice. »
« En effet, cela semble n'être que justice, » dit-elle d'un ton hésitant.
Du regard, elle chercha l'approbation de sa mère, mais le visage de Ronika était fermé. Elle avait toujours cru sa fille aînée la plus forte des deux. Après tout, Kefria n'avait-elle pas choisi une vie qui exigeait de la solidité, tandis qu'Althea s'en allait s'amuser et accrocher au basque de son père. Kefria avait pris époux, avait eu des enfants, géré sa propre famille et aidé à diriger les plus grandes propriétés. Du moins, était-ce l'impression de Ronika quand elle avait rédigé les documents sur l'héritage. Aujourd'hui, il lui semblait que Kefria s'était surtout occupée des affaires intérieures de la maison, qu'elle avait décidé des menus, des listes de commissions et organisé les réceptions. Du coup, c'était Ronika qui exécutait les véritables tâches qu'exigeait la gérance des propriétés. Comment avait-elle pu ne pas se rendre compte que Kefria devenait peu à peu une simple maîtresse de maison, qui suivait les instructions de sa mère, obéissait à son époux, mais prenait rarement position? Ronika tenta de se rappeler la dernière fois où Kefria avait proposé un changement ou pris une initiative, mais rien ne lui vint. Pourquoi ? Mais pourquoi donc fallait-il que ces éclairs de compréhension surviennent à ce moment précis ? Par ça, elle venait de placer les rênes de son existence entre les mains de Kefria. Selon les coutumes et les traditions de Terrilville, quand un homme décédait, ce qu'il possédait était transmis à ses enfants, pas à son épouse, à ses enfants. Certes, Ronika avait le droit de garder la gérance des propriétés qu'elle avait apportées lors de son mariage avec Efron, mais il n'en restait guère. Le cœur glacé, elle prit soudain conscience que ce n'était pas seulement sa puinée qui se trouvait à présent à la merci de ce que Kyle considérait comme convenant à une femme. La même menace pesait sur elle. Elle jeta un vif coup d'œil à son gendre en se composant un visage inexpressif. Elle pouvait seulement prier ça qu'il ne se fût pas encore rendu compte de ce dont elle s'était aperçue, sans quoi elle risquait de tout perdre. Ne pouvait-il pas la mettre au pas en l'étranglant financièrement? Elle prit une profonde inspiration et maîtrisa sa voix.
« Cela paraît équitable, en effet, » concéda-t-elle. Elle ne devait pas donner soudain l'impression d'être trop soumise.
Nous verrons avec le temps si cela se réalise. »
Elle soupira ostensiblement, puis se frotta les yeux comme si elle était lasse.
« Nous avons tant de sujets de réflexion à présent. Pour le moment, je vous laisse vous occuper d'Altea. Quant à la Vivacia, comme l'a dit Kyle, elle doit reprendre la mer aussitôt que possible. Ce doit être notre principal souci pour l'instant, je pense. Puis-je vous demander quel port et quelle frette vous avez choisi et dans combien de temps vous comptez partir ?»
Elle espérait que son envie de le voir s'en aller le plus vite possible ne transparaissait pas trop dans sa question. Déjà, elle réfléchissait à la meilleure façon d'œuvrer en son absence. Elle pouvait au moins veiller à ce qu'à sa mort, Altea hérite de ce qui restait de ses propriétés. Elle n'en ferait part à personne. Elle avait soudain jugé qu'il valait mieux ne pas paraître s'opposer à Kyle. Et seule avec Kefria, elle aurait le temps de travailler au corps sa fille aînée.
Kyle parut soulagé par la diversion qu'apportait sa question.
Comme vous l'avez dit vous-même, nous devons nous mettre en route rapidement. Et pas seulement pour nos finances. Plutôt j'éloignerai Yémin des distractions de la vie à terre, plus vite il acceptera son sort. Il lui reste beaucoup à apprendre. Et même si ce n'est pas sa faute, il parvient à ce stade alors qu'il est presque un homme et non plus un enfant. Il doit s'y mettre le plus rapidement possible.
Il se tut assez longtemps pour permettre aux deux femmes d'acquiescer. Ronica rongeant son frein, car son gendre paraissait sous-entendre qu'elle avait mal éduqué son petit-fils. Quand il fut convaincu de leur accord, il reprit.
« Quant au port et aux frettes, ma foi, nous en avons tous convenu. Nous devons faire commerce le plus vite possible des marchandises les plus profitables. »
Encore une fois, il attendit qu'elle hoche la tête.
« Il n'existe donc qu'une seule possibilité, » dit-il. « Je vais conduire la Vivacia vers le sud, à Jamelia, pour embarquer les meilleures marchandises que nous pourrons payer. Puis, j'irai au nord jusqu'en Calcède aussi rapidement que possible. »
« Et la cargaison ?» demanda Ronica d'une voix défaillante. Déjà, la certitude de la réponse lui serrait le cœur.
« Des esclaves, naturellement. Des esclaves instruits, pas des voleurs à la tire, des brigands ni des meurtriers, mais des asservis qui vaudront un bon prix en Calcède comme précepteurs, contremaîtres et gouvernantes. Nous prendrons aussi des artistes et des artisans. Il faut acheter ceux que les dettes ont conduits à la vente aux enchères plutôt que ceux qui ont été condamnés à l'esclavage pour un délit quelconque. » Il se tut, plongé dans ses réflexions, puis secoua la tête.
« Ils n'auront pas autant de caractère, évidemment. Il nous faudra peut-être donc équilibrer la cargaison avec une cale pleine de ce que nous aurons les moyens d'acheter. Prisonniers de guerre, esclaves de naissance et que sais-je encore. » Le lieutenant Torgue a déjà travaillé sur des transports d'esclaves et connaît beaucoup de négociants aux ventes aux enchères. Il devrait pouvoir nous permettre de faire quelques affaires.
« L'esclavage est illégal à Terrilville, » remarqua Kefria d'un ton incertain.
Kyle éclata d'un rire qui évoquait un aboiement.
« Pour le moment, mais pas pour très longtemps encore, à mon avis. Et tu n'as aucune crainte à nourrir, ma chérie. » Je n'ai pas l'intention de faire halte à Terrilville avec eux. Je vais aller tout droit à Jamelia par la passe intérieure, puis je repartirai et passerai devant Terrilville vers le nord jusqu'en Calcède. Personne ne nous fera d'ennui.
Les pirates ? Fit Kefria timidement.
Ils ne s'en sont jamais pris à la Vivacia. N'as-tu pas souvent entendu ton père vanter sa vitesse de réaction, son agilité à suivre un chenal ? Maintenant qu'elle est éveillée, ce sera encore plus vrai. Les pirates savent que donner la chasse à une vive nef est une perte de temps. Ils nous laisseront tranquilles. Essaie de ne pas t'inquiéter pour des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi. Je n'aurais pas fait ce choix si je le jugeais dangereux.
La cargaison elle-même risque d'être dangereuse pour une vive nef, observa Ronica à mi-voix.
Que redoutez-vous ? Un soulèvement général ? Non. Ils se trouveront sous les panneaux et solidement attachés à fond de cale pendant tout le trajet. »
Apparemment, Kyle commençait à s'agacer des réserves des deux femmes envers son projet.
Cela pourrait s'avérer encore plus dangereux dans ce cas.
Ronica s'efforçait de s'exprimer avec douceur, comme si elle donnait une opinion
au lieu de décrire un péril dont Kyle aurait dû avoir clairement conscience.
Les vivnefs sont des créatures sensibles, Kyle, et Vivacia ne s'est éveillée que récemment. De même que vous n'exposeriez pas Maltar aux inconforts que les esclaves doivent supporter pendant leur transport, il vaudrait mieux en préserver la Vivacia.
L'expression de Kyle s'assombrit puis s'adoucit. Ronica, je n'ignore pas les traditions qui entourent les vivnefs. Et tant que nos finances nous le permettront, je les respecterai. Yéma se trouvera à bord et il lui sera alloué du temps chaque jour simplement pour converser avec le navire. Il pourra ainsi l'assurer que tout va bien et qu'aucune de nos activités n'a de rapport avec son bien-être. Je n'ai pas non plus l'intention de me montrer cruel sans nécessité. Il faut maintenir les esclaves enfermés et contenus, mais en dehors de cela, ils seront bien traités. Vous vous faites du souci pour rien, je crois, Ronica. En outre, même si la Vivacia ressent quelque angoisse, ce ne sera que passager. Quel mal peut-il en sortir ?
Apparemment, vous avez tout envisagé. Ronica s'efforça de prendre une voix raisonnable et de remplacer la colère qu'elle éprouvait par un ton préoccupé.
On raconte des histoires, naturellement, sur ce dont est capable une vive nef tourmentée par l'angoisse. Certaines, dit-on, avancent contre leur gré, laissent le vent échapper à leur voile, s'échouent là où apparemment elles devraient flotter sans mal et laissent traîner leur ancre. Mais sans doute un équipage vif et bien formé doit pouvoir en venir à bout. Dans certains cas plus graves, on prétend que des navires mal employés peuvent devenir enragés. Le paria n'est que le plus célèbre d'entre eux. On parle de certains autres, de vives nefs qui ont quitté le port et ne sont jamais revenus parce qu'elles se sont retournées contre leurs propriétaires et leur équipage.
Et chaque saison, des navires ordinaires ne reviennent pas. Les tempêtes et les pirates expliquent aussi bien qu'une crise de nerfs qu'une vive nef ne regagne pas son port, la coupa Kyle d'un ton impatient.
Mais avec Yéma et toi à bord, je pourrais perdre la moitié de ma famille d'un seul coup, intervint soudain Kefria, des larmes dans la voix. Oh Kyle, crois-tu que ce soit sage? Papa gagnait de l'argent avec la Vivacia, et il n'a jamais embarqué de cargaison illégale ni dangereuse.
Kyle se rembrunit encore davantage. Kefria, ma chérie, ton père ne gagnait pas assez. C'est précisément ce dont nous sommes en train de discuter. Comment éviter les erreurs qu'il a commises et rendre à notre famille sa santé économique et sa respectabilité? Et sous cet aspect, une autre de ces bizarreries saute aussitôt à l'esprit.
Il dévisagea soudain Ronica et observa.
Si le commerce des esclaves vous déplaît, nous pourrions commercer le long du fleuve du désert des pluies. C'est assurément de là que proviennent les articles les plus recherchés. Toutes les autres vives nefs y font du négoce. Pourquoi pas nous ?
Ronica soutint calmement son regard. Parce que, il y a des années, Ephron a décidé que la famille Vestrit n'y commercerait plus. Et c'est ce qui s'est passé. Nos contacts avec les négociants du désert n'existent plus.
Et Ephron n'est plus aujourd'hui. Je suis prêt à affronter ce qu'il craignait.
Remettez-moi les cartes du fleuve du désert des pluies et je nouerai mes propres contacts, dit Kyle.
Ce serait signer votre arrêt de mort, répondit Ronica avec une profonde conviction.
Kyle émit un grognement méprisant.
Ça m'étonnerait. Le fleuve du désert des pluies est peut-être dangereux, mais j'ai déjà remonté des rivières en bateau.
Il s'interrompit puis prononça les mots fatidiques.
Je vais prendre ces cartes dès maintenant. Elles appartiennent de droit à Kefria. Vous ne pouvez plus nous empêcher d'y accéder, et alors tout le monde sera satisfait. Pas d'esclaves à bord de la Vivacia et un commerce profitable le long du fleuve du désert des pluies.
Ronica mentit sans hésiter.
Ce serait peut-être possible si de telles cartes existaient, mais elles ne sont plus, Kyle. Ephron les a détruites il y a des années, quand il a décidé de rompre nos contrats commerciaux avec le fleuve. Il voulait mettre fin au négoce de la famille Vestrit avec le fleuve du désert des pluies, et c'est ce qu'il a fait.
Kyle se leva brusquement.
Je ne vous crois pas, gronda-t-il. Ephron n'était pas stupide, et seul un imbécile aurait détruit des cartes de cette valeur.
Vous voulez nous empêcher de nous en emparer, c'est ça? Vous les gardez pour votre précieuse Althea et le rebut que vous trouverez pour l'épouser?
Me faire traiter de menteuse m'importe peu, siffla Ronica. Et cela, du moins, a été la vérité.
Et qu'on me prenne pour un imbécile m'importe peu, rétorqua Kyle furieux. Nul dans cette famille ne m'a accordé le respect que je mérite. J'acceptais de le supporter de la part du vieil Ephron. C'était un homme et mon aîné de bien des années. Mais je ne le tolérerai pas de qui que ce soit d'autre sous ce toit. Fois pour toutes, je veux la vérité. Pourquoi Ephron a-t-il rompu les contrats commerciaux de la famille avec le fleuve du désert des pluies? Et comment s'y prendre pour les renouer?
Ronica se contenta de le regarder sans répondre.
Sacre bleu! S'écria Kyle. Vous ne comprenez donc pas? À quoi bon posséder une vive nef si nous ne nous en servons pas pour exploiter le commerce du fleuve? Chacun sait que seules les familles qui détiennent une vive nef peuvent pratiquer le négoce dans le désert des pluies. Nous sommes une famille de premiers marchands. Mais qu'a fait votre époux de ce privilège et de cette dette?
Il a vendu des soieries et de l'eau de vin comme n'importe qui en est capable, avec un radeau et une voile, tout en regardant croître notre dette chaque année.
L'argent coule plus vite que l'eau dans le fleuve du désert des pluies, mais vous préféreriez nous obliger à rester sur ces berges à crever de faim?
Ronica s'entendit répondre.
Il y a pire sort que mourir de faim. Kyle Havre.
Quoi, par exemple? Demanda-t-il d'une voix tendue. Elle ne put se retenir.
Avoir comme gendre un crétin cupide. Vous ignorez de quoi vous parlez lorsque vous évoquez le fleuve du désert des pluies.
Kyle eut un sourire glacial. Pourquoi ne pas donner les cartes dans ce cas? Que je me rende compte par moi-même. Si vous avez raison, vous serez débarrassé de votre gendre et vous aurez tout loisir de noyer vos enfants et vos petits-enfants dans les dettes.
Non ! Hurla Kefria en sursautant. C'est insupportable ! Ne discutez pas de ces choses. Kyle, il ne faut pas remonter le fleuve. Le trafic des esclaves est bien préférable. Emmène Yémin si tu le dois, mais ne remonte pas le fleuve.
Elle regarda tour à tour sa mère et son mari d'un air implorant.
« Il n'en reviendrait pas, tu le sais comme moi, maman. Papa vient à peine de mourir et tu parles maintenant de laisser Kyle se faire tuer. »
« Kefria, tu es excédé de fatigue et tu réagis excessivement. »
Le regard qu'adressa Kyle à Ronica sous-entendait que c'était sa faute, qu'elle jouait avec l'imagination de sa fille. Une petite étincelle de colère s'alluma dans le cœur de Ronica, mais elle l'étouffa fermement, car sa fille regardait son époux avec des yeux pleins de douleur. « C'est l'occasion, se dit-elle, c'est l'occasion. »
« Permettez que je m'occupe d'elle, » proposa-t-elle d'un ton apaisant à Kyle. « Vous avez sûrement beaucoup à faire pour préparer le navire. Viens, Kefria. » « Allons dans mon salon. Je vais demander à Rack de nous apporter de la tisane. Pour dire la vérité, je me sens fatigué, moi aussi. Viens, laissons un moment Kyle s'occuper de ses affaires. »
Elle se leva, passa un bras autour de la taille de Kefria et la fit sortir de la salle.
« Je sauverai ce que je pourrai. » murmura-t-elle intérieurement à Ephron. « Je sauverai ce que je pourrai de ce que tu m'as laissé, mon chéri. Au moins une fille que je garderai en sécurité auprès de moi. »